Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça va, Cré? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Périlla, comme il a été dit. Et donc, avec mon épouse, nous venons d'Aix-en-Provence. Nous avons été dans le travail d'implantation d'église à Marseille pendant bien des années. Et puis, depuis 10 ans, nous sommes, 11 ans maintenant, nous sommes à Aix-en-Provence. Donc la petite sœur d'Aix-en-Provence, le CEP d'Aix-en-Provence vous dit bonjour aussi. Voilà, on est en communion les uns avec les autres, n'est-ce pas, dans la région. J'espère que vous aimez la Provence. Moi, je suis de Provence et j'aime beaucoup ma Provence. Et j'aime beaucoup les églises aussi qui sont en Provence et qui peuvent aussi avoir de la communion les uns avec les autres. Si je vous dis EPM, ça vous parle? EPM, ça vous dit quoi? E, ça veut dire quoi? Ensemble pour. Voilà, pas ensemble pour chanter, etc., mais aussi hein, ensemble pour multiplier. C'est le nom de la pastorale régionale. Et en fait, on essaye, je fais partie d'un comité où on essaye vraiment de faire en sorte que les églises puissent avoir un peu de communion les unes avec les autres. Des fois, on est un peu éloigné, hein, à cause de la géographie surtout. Mais de temps en temps, de faire un peu de route et d'aller se voir, ça fait partie aussi du programme. Hein, c'est le petit sacrifice qu'il faut faire des fois pour avoir la joie de la communion fraternelle. On organise un culte tous les ans ensemble. La dernière fois, on était à peu près 500. Hein. Et puis on organise des choses en bassin. Donc voilà, la communion, c'est important. Parce qu'au-delà de la communion, de se voir et du plaisir de se voir, on voudrait bénir la Provence. N'est-ce pas? En Provence, on était combien? On était, pendant la réforme, il y avait un homme sur quatre qui était né de nouveau. Vous imaginez? 25% de la population était chrétienne, mais vraiment chrétienne. Et là, aujourd'hui, on est combien? 1%. Donc, on demande au Seigneur qu'il le refasse, quoi. Hein, et qu'on soit des vecteurs de bénédiction pour la Provence. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, ben, on sera beaucoup plus vecteurs de bénédiction ben, si on a de la communion, si ensemble, si on peut mutualiser, si on peut s'aider les uns les autres. N'est-ce pas? Je vais vous parler ce matin de l'Église. De l'Église avec un grand E, et peut-être aussi de l'Église avec un petit E, l'Église locale, l'Église de Cré, pourquoi pas. Hein, j'ai choisi pour cela un passage que je vais afficher dans quelques instants. Donc j'ai intitulé ce petit message « Christ, moi et le royaume ». Et je vous propose de prendre la lecture dans Matthieu chapitre 16 et 18-19. Mais je vais aussi lire le contexte qu'il y a autour de 18 et 19, hein, parce qu'il ne faut jamais prendre un texte en dehors d'un contexte, vous savez ça, hein, j'imagine. Alors voilà le texte lui-même. Je vais le lire sur ma tablette. Ça m'empêchera d'avoir un torticolis à la fin. Voilà. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Et puis par la suite, il va leur expliquer qu'il va à Jérusalem pour beaucoup y souffrir et donner sa vie en sacrifice pour le péché. Alors je voudrais me concentrer plus particulièrement sur ces versets-là. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu déliras sur la terre aura été délié dans le ciel. Je voudrais qu'on puisse se focaliser sur ces versets en particulier. D'accord? Et ce que je vous propose, c'est d'apporter une courte explication de ces versets. Le Seigneur m'aide, parce qu'il n'y a personne qui peut expliquer la parole de Dieu sans l'aide de Dieu, et puis qui nous aide aussi à l'entendre, parce qu'il n'y a personne qui peut la comprendre, cette parole de Dieu, sans l'aide de Dieu. Donc on se remet tous ensemble au Seigneur, moi qui parle, vous qui écoutez, on est tous sur le même pied d'égalité devant la parole de Dieu, on a besoin du Seigneur pour comprendre ce qu'il nous dit. Alors, je vais commencer. Alors, normalement, un bon orateur, je ne sais pas si c'est le cas pour moi, il devrait donner un petit programme d'abord pour que les gens le suivent. Hein, parce que sinon, après, ils sont perdus et moi aussi, et tout le monde est perdu. Donc, j'ai trouvé 3 points. Ça, c'est, comme ça, c'est facile. De toute façon, avec moi, il faut que ça soit facile. Le point numéro 1, je vais essayer d'expliquer. Je construirai mon église et les portes du royaume des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je vais commencer vraiment par the truc, là, le centre, d'accord ? La chose la plus importante. Le point numéro 2 que j'aimerais expliquer, c'est « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur son rocher, voilà, je construirai mon église. » Il y a un petit point théologique un peu compliqué là. Enfin, moi, pour moi, c'était un petit peu compliqué, mais il faut l'expliquer. Sinon, on peut passer à côté de certaines choses. Et le point numéro 3, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Donc le point numéro 1, je construirai mon église. Je construirai mon église. Quand on est arrivé sur Aix-en-Provence, je ne connaissais absolument pas Aix-en-Provence. Moi, je viens de Marseille. Et quand on arrive à Aix-en-Provence, on arrive dans un autre endroit. On se rend compte qu'à Marseille, on n'était pas en France. À Aix-en-Provence, on arrive en France. Et je me posais bien la question, mais qu'est-ce que les Français pensent de l'église? Je suis français moi-même, mais à Marseille, ce n'est pas pareil. Et donc, j'ai fait des sondages, j'ai demandé à mon équipe s'ils voulaient faire des sondages dans la rue. Personne ne pensait que c'était vraiment son truc de faire les sondages dans la rue. Ce n'était pas du tout mon truc aussi. Mais quand même, aller au contact de la population pour savoir ce que les gens pensent avant de leur dire quoi que ce soit, de les écouter, quoi. De les écouter. Alors, parmi les questions, et ce n'était pas un sondage piège, vous savez, où à la fin, on annonce l'évangile en 4 points et on cisaille la personne. C'était vraiment pour savoir ce qu'ils pensaient. Et parmi ces questions, il y avait une question qui était « Si vous deviez fréquenter une église, à quoi ressemblerait-elle » Et vous savez les réponses que j'ai eues, que nous avons eues ?« Ah ben, je ne sais pas, écoutez, pourtant, Aix-en-Provence, hein, c'est du level. Hein. Ben, je ne sais pas, peut-être style gothique. » Et d'autres me disaient « Moi, plutôt style roman. » Et je me suis rendu compte à quel point on était loin de la définition biblique de l'église. L'homme de la rue, la femme de la rue, est très loin de la définition biblique de l'église. Pour la plupart des gens, en France, l'église, c'est ça. C'est un bâtiment. D'ailleurs, quand les gens arrivent ici, ils doivent se demander « Mais comment, je ne vois pas de croix et tout ça. Vous êtes vraiment une église, vous ?» Nous, à un moment donné, on a eu l'idée de mettre des petits flyers à l'entrée « Nous sommes une église sans clocher. » Parce que c'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter un truc comme ça. C'est parce que, quelque part, l'église, on veut la vivre différemment. On veut la vivre d'une manière biblique. Et expliquer l'Église à ses contemporains, ben je vous dis, faut prendre du courage. Hein. Bonjour les dégâts, parce que les gens, vraiment, ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'Église. Et je me rends compte que dans les prières ce matin, ben, beaucoup ont la bonne conception de l'Église. Mais ça, il faut partager autour de nous, parce que ce n'est pas évident. Les gens ont une idée de l'Église complètement différente. Alors quand Jésus parle de l'Église, il emploie le mot « ecclésia ». Ecclésia qui est composé de « ek » et « klesis ». « Ek », ça veut dire « hors de ». En grec, ecclésis, ça veut dire appeler. Appeler hors de. Littéralement, hein, l'Église, c'est donc un peuple qui a été appelé hors de. Hors de quoi ? Hors de quoi ? Peut-être hors du monde, hors du système, sans Dieu. Nous sommes appelés, en tout cas, pour quelque chose. On n'est pas juste un peuple comme ça. On va quelque part. On est appelé à quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Je pense qu'on se comprend. Voilà ce que c'est que l'Église. Ecclésia, ça a donné le français ecclésiastique, n'est-ce pas ? Ça vient de là. En fait, l'Ecclésia, c'est un peuple, ce n'est pas un bâtiment. C'est un peuple qui a été appelé à quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Ben, c'est nous. C'est un peuple en exode, si on peut dire. C'est l'Église. Alors moi, je pense que... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être l'Église, ça serait beaucoup plus représentatif si on la représentait avec des personnes, voilà. Tu vois le petit gamin qui a vu, hein, on peut se reconnaître, hein, qui a vu quelque chose. Il a vu autre chose que ce monde, tu vois. C'est un enfant de Dieu ou quelqu'un qui a été libéré de tout ce qui l'emprisonnait dans ce monde, y compris le péché et peut-être la crainte de la mort. Voilà ce que c'est que l'Église. C'est un peuple qui ressemble un petit peu plus à ça qu'à un bâtiment. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Ça, c'est la vision, en tout cas, que Jésus, il a de l'Église. Et il dit, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Alors, je recommence peut-être à revenir sur ce verset. Vous avez vu ce qu'il dit ? Il dit, je construirai mon Église. C'est, le « je », c'est Christ. Hein. Il dit, c'est lui. Je. Puis après, mon Église. Vous avez vu un peu comme il insiste, quoi. Vous avez remarqué ? Je construirai mon Église. Et vraiment, c'est lui qui construit son Église. C'est le Seigneur. Ce n'est pas des hommes. Enfin, ce qui me fait penser à cette question, c'est qui le boss ? Alors, c'est qui le boss ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que c'est lui ? On a chanté des chants d'autorité ce matin. Hein. Je construirai mon Église. C'est qui le boss ? Pourquoi est-ce qu'il dit « Les portes de la mort ne vont pas l'emporter sur elle ?» Dites-moi, qui a l'autorité de dire un truc pareil ? C'est qui a vaincu les portes du séjour des morts ? C'est toi ? C'est moi ? Mais même les plus puissants d'entre nous, on tremble devant la mort, on ne peut rien faire contre elle. Lui, il est mort, il est ressuscité. C'est le boss. C'est la seule personne qui peut dire « Et les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle. » Vous savez pourquoi il dit ça ? Parce qu'il a vaincu la mort, pas uniquement ça, mais il veut emporter tout ce peuple qu'il a appelé hors d'eux aussi à le suivre dans la vie. Il va nous ressusciter d'entre les morts. L'Église ne peut pas être arrêtée par la mort. C'est incroyable ça, non ? C'est ce qui va t'arriver un jour quand tu vas mourir, si tu meurs avant que le Seigneur revienne. Si le Seigneur revient avant, peut-être tu ne mourras pas. Mais si, tu sais ce qui va t'arriver ? Tu vas fermer les yeux et ton âme, elle va être dans la présence du Seigneur. Tu seras en paix. Et tu vas attendre paisiblement le jour de ta résurrection. Le jour de ta résurrection, tu vas te retrouver sur les pieds, sur tes pieds, en face du Seigneur. Et les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Et tu seras autour de l'Église des ressuscités. Voilà pourquoi c'est le boss. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc Christ peut dire, je bâtirai mon Église. Il ne construit pas une espèce de bâtiment. Il construit un peuple éternel avec lui. C'est qui le boss ? Et je fais un petit warning là, un petit avertissement, parce qu'on m'a dit qu'au bout de 10 ans, un employé dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il commence à se prendre pour le boss lui-même. Tu sais ? Parce qu'il sait faire et tout ça, tu vois. J'aime bien le t-shirt là. C'est qui le boss ? C'est moi le boss. Hein ? À un moment donné, on peut tomber dans le piège de penser qu'on est les boss. Hein ? Surtout si on a des responsabilités. Je m'adresse à ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Hein. Bienvenue au club. On peut des fois, même avec la meilleure intention du monde, commencer à se dire ben, « c'est mon Église ». Ce n'est pas ton Église. C'est son Église. Toi, tu es un serviteur, tu es une servante. Mais c'est son Église. Il y a une grande paix à voir les choses comme ça, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas moi le boss, ce n'est pas toi, c'est lui. Je bâtirai mon Église. Premier point, hein, je construirai mon Église. Mais bien sûr, ça ne revient pas à dire que les hommes, ils n'ont aucune part dans la construction du Seigneur. Le Seigneur, il désire associer des hommes, même si c'est lui le boss. Regardez, il y a des versets qui en parlent, il a associé ses apôtres à cette construction. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc il y a vraiment Jésus, la pierre angulaire, mais il associe avec lui ses apôtres, ses prophètes, et nous sommes édifiés là-dessus. Vous voyez cette construction ? C'est lui le boss, mais il nous invite. Apocalypse 21, 14, la muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et oui, il a associé les 12. Ces 12... Bras cassés, quoi. Les 12. Si tu les avais rencontrés, tu aurais pensé que c'était les fondements de la Jérusalem céleste ? Je pense pas. Hein. Je pense que tu ne te serais même pas retourné sur eux. Ils n'avaient rien, vraiment, ces gens-là. Il a pris des bras cassés et il en a fait son conseil de guerre, son conseil général, les fondements de la nouvelle cité. C'est ça, le Seigneur. Il prend ce qui n'est pas grand-chose pour faire une œuvre qui surpasse toutes les autres. Et on en fait partie, toi et moi. Tu as remarqué que le Seigneur, il a le sens de l'humour ? Il nous a choisis. Ben oui, il faut avoir le sens de l'humour pour ça, non ? En tout cas, il a eu le sens de l'humour avec moi en me choisissant aussi. Point 2. Il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. » Je vous ai dit, c'était le point un petit peu théologique. Allez, je me lance. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, vous avez vu qu'il y a deux mots là. J'ai choisi la version S21 précisément parce que je ne suis pas trop d'accord avec elle. Esprit de contradiction. Ouais, justement, à mon avis, ils n'auraient pas dû traduire comme ça. Ils auraient dû mettre le même mot dans les... Enfin, voilà. Ils disent, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher... Parce qu'en fait, Pierre, en grec, c'est Petros. Ça donnait le mot Pierre chez nous. Hein. Et le rocher, c'est Petra. Alors, Petros, c'est un petit caillou. Petra, c'est une grande pierre. Un énorme rocher. Voilà, en grec. Et c'est pour ça, Petra, le rocher. Alors, j'ai choisi cette image. Il n'y a pas beaucoup de lumens ou beaucoup de lumière, je ne sais pas. Mais c'est un gros rocher. Je ne sais pas si vous voyez la petite maison à côté. C'est ça, un Petra. C'est un gros truc. Et puis, j'ai trouvé sur Internet d'autres illustrations de rochers. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est... Bon, rocher. Un gros rocher. Hein. Et puis, Petros, c'est tout petit, c'est un petit caillou. Un petit caillou, alors c'est ça, les petits cailloux hein, donc, qu'on utilise. Et il dit, en fait, et toi tu es petit caillou, et sur ce rocher je bâtirai mon église. Alors, il y en a qui ont dit, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement, ça veut dire, voilà, c'est ça en gros, hein, je vous montre la phrase dans l'original, et moi je te dis que tu es Pierre, là il emploie le mot Petros, et sur ce rocher, la grosse pierre, hein, je construirai mon église. Il y en a qui ont dit, eh ben, le petit caillou, c'est l'homme, c'est Pierre. Et le rocher, la grande roche, c'est la confession de foi. Parce que juste avant, Pierre, il dit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. C'est la première confession de foi officielle. Il y en a qui ont dit, ben, Petros, c'est le petit caillou, c'est l'homme. Et puis, sur ce rocher, il ne va pas construire sur Pierre. Il va construire sur la confession de foi de Pierre. Et effectivement, il y a quelque chose de vrai là-dedans. On entre dans l'Église, pas parce qu'on est de famille chrétienne ou parce qu'on a quelqu'un qui... On entre dans la véritable Église, dans le peuple de Dieu, par la confession de foi, en reconnaissant que Jésus est le Messie, c'est la porte d'entrée. C'est ça la porte d'entrée de l'Église, n'est-ce pas? Mais néanmoins, cette explication ne tient pas. Même si c'est correct que la confession de foi, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'Église, ça ne tient pas parce que Jésus a probablement parlé en araméen. Et il a dit quelque chose comme ça. Vous comprenez, hein, c'est clair. Il devient de plus en plus clair, l'orateur. Il s'est même parlé araméen en plein dimanche. Mais qu'est-ce que c'est ce gars? Alors, je vous traduis parce que franchement, on n'est pas tous avec l'hébreu ou l'araméen. Il a dit ça, le Seigneur, parce que ça a été traduit en grec juste après. Mais quand le Seigneur, il parle à Simon, Shimon, il ne va pas lui parler en grec, il lui parle en araméen. Et ce qu'il lui dit, il dit, et moi je te dis que tu es Képha, et sur Képha, je bâtirai mon église. Il emploie le même mot. C'est le grec qui a ensuite traduit deux mots différents, parce qu'il fallait mettre Petros, parce que Pierre c'est un homme, et on ne peut pas dire Petra. Ça aurait été, surtout à l'époque, un petit peu bizarre et insultant de dire un nom féminin pour un homme. Ça ne se fait pas. Alors on dit Petros. Mais en araméen, c'est le même mot. Moi, je pense que Jésus, quoi qu'on en dise, il a parlé à Pierre. Ah, je sais que les catholiques, la théologie catholique est allée trop loin, hein, en disant que l'Église était construite sur les papes. Parce que pour eux, Pierre, c'est le premier pape. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une telle réaction du monde protestant. Mais quelque part, si on se garde de l'exagération de la doctrine catholique, eh ben, Jésus, il a parlé à Pierre. Et il a fait beaucoup de choses avec lui. Et effectivement, la première Église, mais regardez un petit peu tout ce qui se passe. Alors là, si pour la discussion théologique sur Petros et Petra, elle est très grande. Je peux vous donner la slide si ça vous intéresse. Hein. Je reviens à mon sujet. Regardez tout ce que Jésus a fait avec Pierre. Hein. Pierre, c'est celui qui a eu la première prédication pendant le livre des Actes. Il y a des milliers de gens qui se sont convertis quand il a parlé. Pierre, il a fait des miracles apostoliques. Incroyable. Il a même ressuscité une personne. Pierre, il a été le premier à avoir été officiellement envoyé vers les non-juifs, vers les païens. Il a été évangélisé un commandant SS, enfin un romain. Un centurion romain. Pour un juif, ça aurait été la même chose. Il a été là-bas. Pierre, il a été le premier à avoir compris qu'on pouvait manger de tout et se séparer un petit peu des dogmes du judaïsme.
Pierre, ça a été une des premières personnes à vraiment trancher dans le premier concile de Jérusalem en disant « faut pas faire circoncire ceux qui ne sont pas juifs ». Vous imaginez tout ce qu'il a, il a fait dans l'Église. La première partie du livre des Actes parle de Pierre et la deuxième, ça parle de Paul. Mais Pierre a fait beaucoup de choses. Et effectivement, Jésus a utilisé ce gars, ce pêcheur de poissons, et sur lui, il a commencé à construire la première Église. Donc Jésus, il emploie des hommes. Il emploie des hommes. Même si c'est lui le boss, il emploie des hommes. Et on peut se poser la question, hein, parce que Pierre, lui, il ne remet pas en question la... Elle ne marche plus, je ne sais pas. Hop. Je ne sais pas si ça... Ouais. Pierre, il ne remet pas en question le fait que Jésus est la pierre angulaire. Hein. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, à laquelle il attache une grande valeur. C'est Pierre qui parle. Pierre ne se prend pas pour le boss, même s'il a été choisi par le boss. Hein. Et puisque vous aussi, vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Pierre a été choisi par le Seigneur. Le Seigneur a beaucoup construit sur Pierre. Mais regardez ce que Pierre dit. Il dit « et vous aussi ». Alors lui, c'est peut-être une grosse pierre, pierre de taille, hein, malgré qu'on l'appelle Pétros en grec. Mais nous aussi, on est des pierres. On est des pierres vivantes. Le Seigneur aussi, il nous associe à sa construction. On va regarder le contact, hein, parce qu'elle ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Hein, voilà. Christ, pierre angulaire, et nous les pierres vivantes, pardonnez-moi. Et puisque vous êtes aussi, voilà, on parle des pierres ici, des pierres vivantes. On est, le Seigneur, il construit son église avec toi et moi. La slide suivante. Merci. Et puis, c'est quoi notre part dans l'église? S'il construit avec nous, qu'est-ce que c'est ta part à toi? Toi, la petite pierre, moi, la petite pierre dans l'église. C'est quoi ta part à toi? Qu'est-ce que tu fais dans l'Église? Qu'est-ce que tu fais dans l'Église? Et je ne te parle pas uniquement de qu'est-ce que tu fais dans l'Église, quoi. Pas ici, mais qu'est-ce que tu fais dans le peuple de Dieu? Parce que tu as ta part. Le Seigneur désire construire avec toi. Et une bonne question précise à se poser, c'est celle-ci. C'est si tu as ta part, quels sont tes dons spirituels? Le Seigneur t'a donné des dons spirituels. Écoute ce que Pierre, encore, je cite Pierre, hein, puisque c'était lui dont on parle ici, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Michael, ce matin, nous a rappelé que quand on se met au service les uns les autres, qu'est-ce qu'elle fait la roue? Elle commence à tourner. Elle tourne, elle avance. Tu as reçu un don spirituel. Sers le Seigneur avec ton don spirituel ou tes dons spirituels. Si tu ne les connais pas, essaye un petit peu tout. Puis tu te demandes aux gens, où est-ce que j'ai été bon? Ça sera peut-être une indication. Ouais, c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses. Si tu nous as fait du bien quand tu as fait ça. Ça peut être un don d'aide, ça peut être un don de parole, ça peut être un don d'administration. Tu sais, on a tous reçu au moins un don. On n'est pas dans la construction de Dieu à rien faire. Il nous demande de faire quelque chose. Et quand on construit avec son don spirituel, on ne se fatigue pas. Le don spirituel ne te draine pas. Il n'enlève pas ton énergie. Tu sais, comme les gens qui font de la magie, à la fin, ils sont épuisés, tu sais. Un don spirituel, non, à la fin, tu es même rechargé. Donc, tu cherches le Seigneur avec joie, quel que soit ton don. Trouve le plaisir de Dieu. Ce que c'est comme plaisir que de le servir à la place qu'il nous a donnée, bon sang. Et c'est génial. Et c'est juste génial. Donc, oui, point 3. Je vais un petit peu avancer. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. L'Église n'est pas la finalité. Elle est l'indicateur qui montre le royaume. Vous avez remarqué que Jésus, alors qu'il parle de l'Église, parle immédiatement après du royaume. Vous savez que le cœur de la prédication de Jésus, c'était le royaume de Dieu. Ce n'était pas l'Église. C'était le royaume de Dieu. Quand l'Église, elle regarde à elle-même, elle arrête de grandir. Quand l'Église regarde le royaume, elle grandit. On est le seul club, si on peut dire, qui existe pour le bénéfice de ses non-membres. On existe pour les autres aussi, pour le royaume de Dieu, pour atteindre les gens pour le royaume de Dieu. Une église qui vise le royaume de Dieu est une église missionnelle. C'est ça la définition d'une église missionnelle. Ce n'est pas une église qui regarde à elle-même, c'est une église qui regarde le royaume. Et ça commence par chacun d'entre nous. Quelle est ta vision du royaume de Dieu ? Est-ce que tu travailles cette vision ? Est-ce que tu la partages ? Est-ce que tu as une vision du royaume de Dieu ? Parce que l'église qui regarde le royaume de Dieu est une église missionnelle. Alors, je ne sais pas si ça va remarcher ou pas. Ah non, bah écoute, tu peux revenir un peu en arrière ? C'est pas ma slide. C'est pas grave. Voilà, tu peux juste revenir en arrière. Voilà, celle-là, c'est bon. Là, voilà, ensuite, voilà. Ok. Cette zapette est extraordinaire. Voilà, c'est bon. Une église qui vise le royaume de Dieu est une église missionnaire, missionnelle. Alors, je voudrais te montrer cette slide, justement, parce qu'elle est intéressante. C'est juste là. Hein, ça remarche ?
Merci beaucoup.
Voilà. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça pourrait être une église missionnelle à créer ? Et ouais, je suis un planteur. Normal que je me pose ce genre de questions. Si j'arrivais à créer, qu'est-ce que je ferais ? Et je pense que vous avez eu tous ces réflexions bien avant moi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'une église peut faire à créer ? Alors, j'ai interrogé ChatGPT. Ouais, carrément. Et puis, j'ai trouvé, qu'est-ce que c'est qu'une église missionnelle à créer ? Tu sais que ChatGPT m'a bluffé. Il m'a dit, premièrement, il faut comprendre l'écosystème de créer. Deuxièmement, il faut incarner une présence de paix. Et troisièmement, il faut répondre aux besoins locaux. Alors, je pense que ChatGPT, hein, c'est pas lui qui a trouvé ça, ou elle, je sais pas, ou ça, qui a trouvé tout seul. Hein. Il sait ça à cause de beaucoup de renseignements. Peut-être que ça vient aussi de vous, hein. Je sais pas. Mais en tout cas, il a vachement répondu. Et en plus, il a donné du contenu. Hein. Chaque fois, par exemple, ici, vous avez « Comprendre l'écosystème, la culture de la transition hein, ». C'est un bastion de l'écologie pratique et de l'autosuffisance créée. Alors, une église missionnelle peut s'impliquer dans la préservation de la création, nettoyage de la Drôme, jardin partagé. Bonnes idées. Hein. Moi, franchement, en tant qu'implanteur, je me dis, c'est bon, hein, ChatGPT, tu m'aides là. Le tissu associatif, avec plus d'une centaine d'associations, carrément, les associations, c'est le langage de créer. Et ils disent, c'est pas la peine de créer votre association, participez aux associations qui existent déjà, et vous verrez que ça, vous allez avoir beaucoup plus de résultats et de faire beaucoup plus de choses. Incarner une présence de paix, tu vois un peu tout ce qu'il y a là, dans une ville qui valorise l'authenticité et le lien social, l'Église doit être perçue comme un espace de dialogue et non de prosélytisme. Le concept du troisième lieu, café associatif, etc. Incroyable, hein ? Hospitalité radicale. Eh oui. Et puis aussi, répondre aux besoins locaux. Et là, ChatGPT nous dit le soutien à la parentalité. Vous y avez pensé ? L'accompagnement de la précarité. Collaborer avec les instances locales pour aider les personnes isolées ou en difficulté dans une ville où la mixité sociale est réelle. Je suis sûr que vous y avez pensé à ça. Ou bien la santé mentale et la solitude à cause de l'arrivée des nouveaux néo-ruraux. C'est là, hein ? Moi, je regarde juste le programme, ça marche, hein ? J'arrive ici, je dis, ben, je vois, les idées sont là, je ne vais pas commencer à réinventer la roue, parce qu'on a parlé de roue tout à l'heure. Elle est là, l'idée est là. Hein, voilà. Donc, je vais vous laisser avec tout ça. Merci beaucoup pour votre attention. Je me demande, est-ce que c'est la bonne solution ou conclusion hein, est-ce qu'on peut finir là-dessus hein. Je pense que, franchement, ces idées, elles sont bien. Moi, personnellement, je les adopterais. C'est tout à fait contextuel. Néanmoins, il y a quand même quelque chose dans la parole de Dieu qui me parle et que je pense que je n'ai pas encore tout à fait expliqué, c'est cette question de clé du royaume. Jésus, il parle des clés du royaume, il parle à Pierre, il dit « Ce que tu liras sur la terre aura été lié dans le ciel, ce que tu déliras sur la terre aura été délié dans le ciel », et il parle des clés du royaume. Moi, je me pose la question, je suis comme un gamin toujours curieux, mais c'est quoi les clés du royaume ? Mais Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, par les clés du royaume? Enfin, alors j'imagine une clé de château, moi, tu sais, grosse clé, là, tu sais. Clé, pas genre de petite clé que tu as dans la poche, hein, grosse clé, quoi. La clé du royaume. Mais c'est quoi, finalement, cette clé du royaume? Au-delà d'images, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. C'est pas mystérieux, quand même, hein? Moi, je trouve que c'est mystérieux. Ça me plaît, moi, les mystères, les enquêtes, tout ça. Les clés du royaume. Alors, j'ai trouvé un autre texte parallèle dans le même évangile qui parle, non pas des clés du royaume, mais qui a une phrase qui est complètement similaire et qui met sur la voie, qui explique. La meilleure explication de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même. Alors, c'est celui-là. Mais si ton frère a péché contre toi, c'est ailleurs, hein, un peu loin, on dirait qu'on est complètement dans un autre sujet. Mais regarde comme ça se rejoint. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, c'est les mêmes paroles, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Vous avez vu, c'est les mêmes paroles. Vous avez vu de quoi ça parle? Vous voyez le sujet? Le pardon. Ça parle du pardon. Tout ce que tu pardonneras sur la terre aura été pardonné au ciel. Tout ce que tu ne pardonneras pas sur la terre ne sera pas pardonné au ciel. C'est la puissance de l'Évangile. Parce que la puissance du pardon se trouve dans l'Évangile. C'est-à-dire le Seigneur nous a donné l'Évangile. Et l'Évangile, c'est le message du pardon. Celui qui accepte le pardon de Dieu, il est pardonné au ciel. Celui qui n'accepte pas le pardon de Dieu sur la terre, il n'est pas pardonné au ciel. Aussi simple que ça. Une question de pardon, une question d'Évangile. Et je me dis, avant, hein, de faire quoi que ce soit, on doit revenir à l'Évangile pour être une église missionnelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Version Sommaire. L'Évangile, c'est la puissance du pardon. Et cette puissance du pardon, le Seigneur te l'a donnée. Il t'a confié l'Évangile. T'imagines la responsabilité et l'honneur? Tu connais le mystère de l'univers, c'est l'Évangile. Tu le connais. Et la puissance du pardon de Dieu est dedans. Tous ceux qui accepteront ce message seront acceptés au ciel. Tu imagines? C'est une belle vie quand même, non? C'est pas n'importe quoi. Le Seigneur nous donne une dignité. Il nous donne une direction. Pour lui, ben, on a une mission qui est importante, qu'on le veuille ou pas. L'Église n'a pas seulement besoin de ChatGPT, d'une bonne stratégie, si vous voulez, hein, pour être missionnel, elle a besoin de puissance. Surtout notre Église en Occident. C'est ça qui manque souvent à l'Église. C'est la puissance. Ce n'est pas les idées. Ce n'est pas l'étude de terrain. Ça, on sait faire. Hein. C'est tellement facile. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu as tout. Et c'est des bonnes idées. Je ne les mets pas à la poubelle. Je ne les méprise pas. Mais je me dis, ce n'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin de puissance. C'est ça. L'Église missionnelle, c'est une Église puissante. C'est une Église puissante, pourquoi? Parce qu'elle a le secret du pardon. Et avant de penser à quoi que ce soit, on doit se poser la question, est-ce que j'ai pardonné? Ou est-ce que j'ai encore de la rancune dans mon cœur? Est-ce que j'ai pardonné au nom de Jésus? Comment avoir de la puissance dans sa vie quand on est encore enfermé par les liens de la rancune et de la vengeance? Est-ce que je partage ce pardon autour de moi? Parce que quelqu'un qui est pardonné, pardonne. Quelqu'un qui n'est pas pardonné a de la difficulté à pardonner. Quelqu'un qui est beaucoup pardonné aime beaucoup. Quelle mesure du pardon de Dieu tu vis? Complet? Est-ce que ce pardon il déborde autour de toi? Est-ce que quand t'en parles autour de toi, c'est évident que ça vient d'un cœur qui est pardonné, d'un cœur qui... Voilà, une bonne conscience, quelqu'un qui se conduit en toute bonne conscience parce qu'il est pardonné. Quand je te rencontre, est-ce que je vois quelqu'un qui est encore dans les difficultés est-ce que je suis vraiment pardonné ou est-ce que j'ai pardonné à cette personne ou bien est-ce que je rencontre quelqu'un qui est clair par rapport au pardon ? Une église missionnelle, c'est une église pardonnée et qui annonce le pardon. Et ça commence par chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Peut-être le devoir que le Seigneur nous donne cette semaine. Quelle mesure du pardon de Dieu est-ce que je vis ? J'aime bien ce petit dessin. Je ne sais pas si vous voyez. On parlait du royaume tout à l'heure. Hein. Merci. Dieu vient établir ton royaume. Puis le Seigneur lui donne quelque chose. Il dit, ok, c'est juste ça. Ça, c'est mon royaume est semblable à un grain de sève. Sème, arrose et laisse pousser. Il nous a donné le pardon. Sème le pardon autour de toi. Prie pour les gens à qui tu as parlé du pardon. Et laisse le Seigneur faire. Tu vois, l'église missionnelle, c'est pas une église qui va commencer à faire un truc, à rentrer dans la quadrature du cercle. C'est l'église qui vit le pardon et l'église qui le partage, tout simplement, dans le contexte qui est la sienne. Tu peux juste mettre la dernière slide. Alors, c'était Christ, le boss. C'était moi, dans l'œuvre de Christ, parce que je fais partie de ce peuple qui a été appelé hors d'eux. Et puis, c'est le royaume, les clés du royaume. Il a donné à Pierre les clés du royaume, mais je pense aujourd'hui l'Église possède les clés du royaume. Et les clés de ce royaume, c'est les clés du pardon. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse vraiment vous bénir et que vous soyez surtout un moyen de bénédiction pour cette région. C'est vous qui avez les clés pour toute la région, là, tout autour. Une bonne partie, en tout cas une bonne partie de la région autour. Vous imaginez la puissance de bénédiction que vous pouvez être en dispensant le pardon autour de vous. Une contre-culture totale dans notre société qui, justement, ne pardonne pas. C'est à vous que le Seigneur a confié les clés du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour votre attention.